Edith Wharton, Le retour à la maison. Chapitre 2. À ma première visite aux tranchées du Nord, me disait Greer l'autre soir, un chirurgien me pria d'avoir un entretien avec un officier gravement blessé, très anxieux des siens, resté dans les provinces françaises de l'Est. C'était un jeune lieutenant de cavalerie, mince et élancé. Son sourire était doux, mais ses yeux bleus avaient une expression d'énergie obstinée. On le sentait capable de tenir jusqu'au bout. Le pauvre garçon avait eu une jambe fracassée dans les premiers combats dans les Flandres. Et, depuis des semaines, il traînait dans le misérable hôpital de fortune où je l'avais trouvé. Il ne dit pas un mot de lui-même, mais se mit tout de suite à me parler de sa famille. Ils vivaient, quand la guerre éclata, dans leur propriété des Vosges. Son père, sa mère, sa sœur de 18 ans et son petit frère Alain, de 2 ans plus jeune. Son père, le comte de Réchamps, s'était marié à un âge avancé déjà, et avait 70 ans. Sa mère, sensiblement plus jeune, était percluse de rhumatisme, et la famille entière évoluait autour d'une vieille grand-mère, presque paralysée, dont la tyrannie les dominait tous. Vous savez combien les familles françaises se tiennent, jetant des branches qui créent de nouvelles racines, tout en restant attachées au tronc central, comme cet arbre, dont j'oublie le nom, que l'on voit représenté dans les livres sur l'Extrême-Orient. Jean de Réchamps, c'était le nom de mon lieutenant, me dit que sa famille était un type accompli de ce genre. Oh, nous sommes très province. Ma famille vit à Réchamps toute l'année. Nous avons une maison à Nancy, un vieil hôtel assez beau. Mais mes parents n'y vont que pour quelques semaines tous les 2 ou 3 ans. C'est notre saison. Imaginez-vous leur mentalité, ou plutôt n'essayez pas, car vous n'y arriveriez jamais. Il avait circulé pas mal dans le monde et avait appris à voir plus largement. Bref, de ce petit groupe inoffensif et exposé à tant de dangers, il n'avait reçu aucune nouvelle depuis le 2 août. Il était avec eux à Réchamps quand la guerre éclata. Il fut mobilisé le premier jour. Juste le temps de boucler sa valise et de courir à la station. Son dépôt était à l'autre bout de la France et les communications avec l'Est, tant par poste que par dépêche, furent complètement interrompues pendant les premières semaines. Son régiment fut envoyé tout de suite à la ligne de feu et l'unique renseignement concernant les siens lui vint en octobre par un communiqué officiel vieux d'un mois disant « L'ennemi a repris Réchamps hier. » Après cela, silence de mort. Et lui, toujours dans les tranchées, a ruminé ce fatal « repris ». Il y a des milliers et des milliers de cas semblables. Et les hommes s'y font, et blaguent, et se battent. Jean de Réchamps le savait, et essayait de blaguer aussi. Mais un jour, il eut la jambe démolie, et depuis, il était resté sur une litière de paille, sous une couverture de cheval, se répétant à lui-même « Réchamps repris ». « Naturellement, me disait-il avec un sourire là, tant qu'on peut descendre les boches, ça va encore. Quoiqu'au fond, on ne sache pas trop pourquoi. On est tellement fourbu le soir qu'on dort sans rêver. Mais quand on est couché ici à regarder le plafond, on revit toutes ces horreurs au moins 100 fois par jour. L'attaque, le massacre, les ruines, et des choses pires encore. Tout ce qui pourrait arriver aux siens. J'en ai vu et entendu assez de ce côté-ci pour savoir ce qui se passe de l'autre. N'essayez pas de me dorer la pilule. Pendant mon séjour dans le voisinage, je retournais le voir chaque jour. Il aimait à causer avec moi dans le vague espoir que je pourrais recueillir des nouvelles à mon retour à Paris. Je ne partageais pas cet espoir, mais je ne voulais pas lui enlever son illusion. Et puis, chaque jour peut amener de l'imprévu. En le quittant, je lui promis de le tenir au courant de tout ce que je découvrirais. Nous savions tous deux, cependant, que je ne pourrais rien savoir avant que Réchamp fût repris par les Français, ce qui me permettrait, peut-être, d'arriver jusque-là, ou tout près de là, et de faire une enquête moi-même. Pour être bien sûr que je n'oublierais rien, il tira les photographies des siens, cachées sous son oreiller, et me les tendit. La vieille grand-mère, avec une figure ratatinée, comme sculptée dans un marron. Le père, un père noble de théâtre, avec un nez de conquérant et un menton sans énergie. La mère, simple et sérieuse sous ses voiles de crêpe, avec un petit cachet de province. La jeune sœur, taillée sur le même modèle, et le petit frère Alain, un garçon de papier mâché, poussé trop vite, tout en nœuds et en front, avec un long corps flué, sans un muscle. En somme, une famille charmante, distinguée et sympathique, mais tous, sauf la grand-mère, d'un modèle courant. On trouve de ces familles-là à la douzaine. Tout en mettant ces photographies dans ma poche, je remarquai qu'il en restait une qui dépassait l'oreiller. « Et celle-ci » demandai-je. Réchamp rougit et je sentis que je faisais fausse route. Pourtant, après un moment d'hésitation, il me donna la photographie. « C'est celle de ma fiancée. Elle était à Réchamp, en visite chez mes parents, à la déclaration de la guerre. Elle devait les quitter le lendemain de mon départ. » Il hésita, puis ajouta: « Il se pourrait que son départ eût rencontré quelques difficultés. Je voudrais bien être sûr qu'elle a pu s'en aller. Elle s'appelle Yvonne Malo. » Il ne m'offrit pas la photographie, mais je n'en avais pas besoin. Celle-là, au moins, avait l'air de quelqu'un. Sa figure brune, vive et rayonnante, différait si complètement de celle des autres que je n'en pouvais détacher mes yeux. J'eusse bien mieux compris s'il n'avait pas dit « ma fiancée ». Après un autre silence, il continua: « Je vais vous donner son adresse à Paris. Peut-être pourriez-vous l'y trouver. Elle vit seule, elle n'a pas de famille, c'est une musicienne. » Il rougit encore et ajouta: « D'ailleurs, je ne sais rien d'elle non plus. » Pour rompre le silence qui suivit, je lui dis: « Mais puisqu'elle n'a pas de famille, n'est-il pas probable qu'elle ait resté avec vos parents? C'est pourquoi vous en seriez sans nouvelles? Oh non, je ne pense pas qu'elle soit restée. » Et il sembla sur le point d'ajouter: « Si elle a pu faire autrement. » Mais il se tut et fit disparaître le portrait. À peine de retour à Paris, je cherchais à me renseigner, sans aucun succès. Les Allemands avaient été repoussés de Réchamp après une quinzaine d'occupations intermittentes, mais leur ligne était encore toute proche de l'autre côté de la vallée, et le château pris dans un filet inextricable de tranchées. On ne pouvait approcher, et il semblait impossible d'en recevoir des nouvelles. Mes recherches quant à Mademoiselle Malo furent également infructueuses. J'allai à l'adresse que Réchamp m'avait donnée, au fond de Passy, dans un quartier plein de jardins où elle habitait un square bordé d'ateliers, d'un pittoresque recherché. Je trouvai sa maison. Au dernier étage, une baie vitrée donnait sur une terrasse. Des piliers d'une pergola pendaient les branches desséchées d'une vigne vierge. Mais Yvonne Malo n'y était pas, n'y était pas revenue, et son concierge était sans nouvelles. Je rendis compte à Réchamp de mon double échec. Il m'écrivit un mot de remerciement, et pendant longtemps, je n'entendis plus parler de lui. au commencement de novembre, les Allemands ayant reculé légèrement en Argonne et le long des Vosges, nous fûmes envoyés du côté de l'Est avec un convoi de voitures d'ambulance. Nous avions naturellement des chauffeurs militaires et je me trouvais connaître un peu celui qui m'était attaché. La veille de notre départ, en discutant notre itinéraire, je lui demandais s'il lui paraissait possible d'arriver jusqu'à Réchamps. Il me sembla ne pas comprendre. L'endroit était si peu connu qu'il en avait oublié le nom. « Mais pourquoi voulez-vous donc aller là ? » dit-il avec étonnement. Je lui expliquai mes raisons. « Ah, ma foi, il y a un moyen bien plus simple. Jean de Réchamps, trop éclopé encore pour aller au front, est à Paris dans le service des automobiles. Il faut qu'il prenne ma place et qu'il vous conduise. Je ne sais pas comment on pourra y arriver, mais on y arrivera. » Et on y arriva. Le lendemain matin, au petit jour, Jean de Réchamps était sur le siège de mon automobile. Ce n'était plus cette loque humaine que j'avais laissée à l'hôpital flamand. Je voyais devant moi un garçon d'une énergie dévorante, mûri par les souffrances, au regard triste et volontaire. Il avait reçu des nouvelles de sa famille et avait appris qu'ils étaient encore à Réchamps en bonne santé et, chose plus surprenante, que Mademoiselle Malo était encore avec eux et ne les avait jamais quittés. On avait envoyé Alain en Angleterre, où il était resté, mais les autres n'avaient pas bougé. Ils avaient installé une ambulance au château. La petite sœur soignait les blessés avec Mademoiselle Malo. Il n'y avait guère plus de détails dans les lettres. Elles avaient été bien longtemps en route, mais elles étaient si rassurantes que Jean pouvait s'abandonner sans arrière-pensée à l'espoir. On imagine combien il fut heureux de l'occasion que je lui procurais. C'était pour lui l'unique chance de voir les siens. Vous savez que nos laissez-passer ne nous donnent pas l'accès des premières lignes. Nous arrivons seulement jusqu'aux ambulances d'arrière et nous en rapportons les grands blessés qui ont besoin d'une opération urgente. J'étais donc fort peu sûr de pouvoir atteindre Réchamps et pourtant résolu à y arriver à tout prix. Nous rayonnâmes pendant 15 jours en Champagne et en Argonne, ce qui nous donna le temps de faire plus ample connaissance. Il faisait un froid noir. Après avoir roulé de longues journées dans ce désert glacé, on se réfugia le soir au café de l'auberge, quand il y en avait une, et bien avant dans la nuit, on causait. Le logement était généralement sommaire, souvent une ferme ou une chaumière encombrée de soldats, car depuis l'automne, les villages n'avaient pour habitants que les troupes qui y étaient cantonnées. La plupart du temps, il fallait, pour ne pas geler, remonter à peine le souper fini dans la chambre que nous partagions et nous glisser tout habillés sous nos couvertures. Un jour, de bonnes petites sœurs des pauvres nous recueillirent dans leur hospice pour 2 nuits. Mon Dieu, qu'il faisait froid dans nos étroites cellules blanches! Mais quel récit autour du grand feu dans la cuisine! Les bonnes sœurs étaient restées seules en face des Allemands. Elles avaient vu la ville en feu et avaient exigé des teutons que les pompes fussent dirigées sur le toit de l'hospice pour le sauver de l'incendie. C'est pendant ces jours-là que Réchamps m'a tout raconté. Je ne crois pas qu'il fût communicatif avant la guerre, mais les longues semaines à l'hôpital, la soif de nouvelles, lui avaient délié la langue. Et puis l'idée de revoir le Réchamps de son enfance le rendait fou. Il savait par quelles épreuves avaient passé d'autres familles, emprisonnées comme la sienne dans le réseau des tranchées allemandes. Toutes ces horreurs auxquelles nous refusions de croire d'abord et auxquelles, maintenant, nous essayions de ne pas penser. Ces histoires l'avaient hanté pendant des mois et il répétait toujours « Ils disent qu'ils n'ont rien. Mais pourquoi ne donnent-ils aucun détail ? C'est que, voyez-vous, vous ne vous figurez pas à quel point ces pauvres chers sont empêtrés. Même s'ils avaient eu le temps de partir, ils auraient fini par rester. Quand je l'ai quitté, maman venait d'avoir une de ses plus violentes crises de rhumatisme. Elle était clouée dans son lit. Grand-mère, qui a une activité du diable dans la maison, n'en veut sortir pour rien au monde. Nous avons eu beau la supplier de descendre au jardin. Depuis des années, elle n'y a pas mis les pieds. Elle prétend qu'il y a trop de courants d'air. Et vous savez, la terreur qu'inspirent aux Français les courants d'air. Quant à mon père, il n'a jamais pris une décision depuis que le comte de Chambord a refusé d'adopter le drapeau tricolore. Il a décidé que Monseigneur avait raison. Et dès lors, rien ne lui a paru valoir la peine d'un acte de volonté. Je sais ce qui s'est passé, comme si j'avais été là, auprès de lui. Il répétait certainement « Il faut prendre un parti, il faut prendre un parti !» tout en restant assis dans son fauteuil, sans bouger. Oh, ne croyez pas que je sois un fils irrespectueux. Toute sa génération était comme ça. Et puis, somme toute, il vaut mieux en rire, n'est-ce pas? Et son regard s'assombrit. Pourtant, il resta d'assez belle humeur jusqu'à ce que commença le défilé de ville en ruine entre Sainte-Ménéhould et Bar-le-Duc. Il allait répétant « C'est par là qu'ils ont passé. » Et je suivais le travail de son imagination qui lui montrait sans cesse ce qu'ils avaient dû faire dans son propre voisinage. « Mais puisque votre sœur écrit que tout va bien... » On a pu lui faire écrire cela pour me rassurer. On savait que j'étais grièvement blessé. C'est étrange que ma mère ne m'ait jamais écrit un mot. N'avez-vous pas dit que les mains de madame votre mère étaient trop malades pour tenir une plume? Sûrement. En tout cas, mademoiselle Malot vous aurait écrit la vérité. Cette pensée sembla le soulager. Oui, certainement. Elle a horreur de dissimuler quoi que ce soit. Eh bien alors, qu'est-ce qui vous préoccupe? C'est quand je vois les traces que ces bandits ont laissées de leur passage, murmura-t-il tout bas. Un jour où nous avions traversé un pays encore plus dévasté que les autres, après une conversation navrante avec le curé, qui nous avait donné d'abominables détails sur les horreurs qui s'étaient passées là, nous étions assis tous les deux auprès du feu de l'auberge. « Quand j'entends raconter ces choses-là, dit-il brusquement, je ne puis plus croire ceux qui me disent que les miens sont sains et saufs. Mais vous savez bien, répondis-je en insistant, qu'il y a Allemands et Allemands, et que tout dépend de l'officier qui les commande. Oui, oui, je sais bien. Seulement, voyez-vous, à mesure que l'on approche... » Et il me raconta qu'il avait été envoyé de l'ambulance d'urgence près du front à un hôpital à Moulins où il était resté un jour ou deux dans une salle tout près d'un groupe de blessés allemands. Il ne se doutait pas qu'il pût les comprendre et avait parlé librement. Alors, il avait entendu des choses atroces. Il y avait un nom qui revenait sans cesse, comme un refrain. Charlach, Oberst von Charlach. L'un des Allemands, un petit, tout jeune, avait dit « Oh, comme je souhaiterais maintenant de m'être coupé la main plutôt que d'avoir obéi à ses ordres ce soir-là. Chaque fois que j'ai la fièvre, je revois tout cela comme dans un cauchemar. Mon Dieu, pourquoi n'ai-je pas été tué avant ?» Ce nom de Charlach, ils le disaient tous avec une voix remplie de terreur, comme s'ils avaient la crainte de le voir apparaître, implacable et menaçant. Réchamp s'était informé d'où venait leur régiment. On lui avait répondu « Des Vosges ». Alors son esprit battait la campagne, et à chaque village ravagé, à chaque récit de sauvagerie barbare, le spectre de Charlach apparaissait. Dans ces moments-là, on perdait son temps à lui rappeler qu'il avait passé dans l'Est plus de 300 000 Allemands. Ils n'essayaient même pas d'écouter.